Et le thème de mon message ce matin, c'est la vie, un combat et une course. Donc le texte sur lequel je vais centrer ma réflexion de ce matin se trouve dans la deuxième lettre à Timothée au chapitre 4 et au verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Notre monde est un terrain de conflit. Concrètement, on peut le vérifier tous les jours si on ouvre son poste de radio ou son poste de télé ou si on lit son quotidien, son journal. On ne peut pas y échapper. Mais en réalité, tous ces désordres, tous ces conflits sont le reflet d'un autre combat qui se joue dans le monde invisible et qui met en jeu des acteurs dont les hommes, dans leur grande majorité, n'ont même pas conscience. Ce conflit, il a débuté à l'origine de l'humanité. Et s'il perdure, ce conflit, c'est parce que l'homme a perdu la première bataille. Oui, ce combat, il est avant tout spirituel. Et pour s'engager dans un combat spirituel, il faut utiliser des armes spirituelles. La première nécessité pour vaincre un ennemi, c'est déjà d'être conscient de son existence. Dans le monde matériel, il y a parfois des personnes qui essaient de se faire passer pour des amis, pour mieux piéger leur adversaire. Et il y a des gens qui savent faire ça. Et si on manque de discernement ou de vigilance, eh bien, on peut très vite se faire avoir. Et dans le monde spirituel, c'est la même chose, et c'est comme ça que tout a commencé. Le serpent, alias Satan, s'est fait passer pour un ami. Et il a fait croire à Ève qu'elle aurait avantage à écouter ses conseils. Et puis, elle l'a cru. Écoutez plutôt ce qu'il lui a dit. On lit ça dans le livre de la Genèse, chapitre 3, versets 4 et 5. Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Oui, la vie est un combat. Nous avons un adversaire puissant. Premier grand 1. La vie est un combat et nous avons un adversaire puissant. Il faut bien être conscient que notre adversaire, il est puissant. Et si on ne s'appuie pas sur celui qui est tout puissant, eh bien on va se faire avoir parce qu'il est plus puissant que nous, notre adversaire. Mais nous avons un avantage sur Ève, nous sommes avertis. Ève ne savait pas que le diable qui se manifestait sous la forme du serpent était son ennemi. Elle n'avait peut-être jamais eu affaire à lui. Et le problème, c'est qu'elle a eu la folie de lui faire confiance plutôt que de faire confiance à celui qui l'avait créé et qui la connaissait parfaitement. Nous n'avons aucune excuse parce que nous connaissons l'histoire. Nous avons l'histoire écrite. Et en plus, Dieu met à notre disposition les armes nécessaires pour nous défendre efficacement contre cet adversaire. Ces armes, elles sont décrites par Paul dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 6. Et si nous voulons être victorieux, il faut veiller à notre équipement. Écoutons les conseils de l'apôtre Paul dans ce domaine et lisons dans ce texte de Éphésiens 6. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Je vous l'ai mis dans la version Summer. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez pour le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance, et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Ces armes, elles sont à notre disposition, mais encore faut-il s'en revêtir. Les verbes de ce passage sont tous à l'impératif. Ces verbes suggèrent une action. Puisez votre force dans le Seigneur. Oui, il est important que nous ne nous appuyions pas sur nos propres forces parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre adversaire, il est beaucoup plus puissant que nous. Et si on s'appuie que sur ses propres forces, on va se faire avoir. On a besoin de puiser dans les forces que le Seigneur veut nous donner. Et pour ça, il faut passer du temps dans sa présence. Et il faut vraiment se revêtir de toutes ses armes. Revêtez-vous de l'armure de Dieu. Alors, revêtez-vous de l'armure de Dieu. Et puis, un tout petit peu plus loin, endossez l'armure que Dieu donne. Alors, si Paul se répète, je pense que quand il y a des répétitions comme ça, quand il y a une insistance, c'est que celui qui nous parle a conscience que c'est des choses importantes et il veut vraiment appuyer sur ça. L'apôtre a conscience de l'importance de cette armure et il veut sensibiliser son auditoire à une chose qu'il juge vraiment très importante. Ensuite, tenez donc ferme, encore un impératif. Il veut, l'apôtre, sensibiliser ses auditeurs au fait que la vie chrétienne n'est pas une vie tranquille, c'est vrai, dans un fauteuil ou dans un lit, mais qu'il faut s'attendre à rencontrer une forte opposition et qu'il faudra être capable de résister aux offensives d'un adversaire coriace. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Alors, dans ce monde qui nous entoure, on rencontre beaucoup d'hypocrisie. C'est vrai. Les gens prennent beaucoup de liberté avec la vérité et ils arrangent les choses à leur façon pour s'attirer la faveur des hommes. On est appelé à être vrai, même si ce n'est pas populaire, et même si ça peut être préjudiciable pour nous. Revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse, ou dans la version second, il est dit la cuirasse de la justice. Comme la justice, c'est pas quelque chose qui est vraiment la norme dans notre monde. Encore dans notre monde occidental, c'est un petit peu moins pire, je dirais, que dans certains pays totalitaires, mais malgré tout, il n'y a quand même pas de justice dans notre monde. Elle n'est pas respectée toujours dans la société, loin de là. Ayez pour chaussure à vos pieds le zèle, comme dit la version seconde. Alors, là, pour revêtir de bonnes chaussures, c'est pas pour rester dans son lit à se prélasser ou dans un fauteuil. Si l'apôtre nous invite à revêtir des chaussures du zèle, c'est parce qu'il compte vraiment que nous puissions être actifs, que nous puissions ne pas nous reposer sur nos lauriers, mais cela implique vraiment une vie active au service de Dieu. Et saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier. La foi, c'est la base de toute vie chrétienne. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 11, où il fait une longue liste des héros de la foi, dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Dans la suite de l'équipement que Paul propose, il dit « Prenez le salut pour casque ». Alors, c'est vrai que ce salut, on ne le mérite pas. On ne peut pas le mériter. On ne peut pas l'acquérir par nos propres mérites. Et ce salut, il a été acquis à un grand prix par Jésus sur la croix. Alors, si on sait ces choses, il faut vraiment se les assimiler et bien réaliser que Jésus a payé le prix. Et il ne faut pas se laisser intimider par l'adversaire qui cherche toujours à placer sous nos yeux nos limites, nos fautes, nos manquements, en nous disant tu ne peux pas être sauvé avec tout ce que tu as fait. C'est pas possible. Si, le salut, il a été acquis, il a été payé. Et ça, il faut en être conscient. Et si on revêt ce casque du salut, alors on est protégé contre toutes ces insinuations de l'adversaire qui cherche toujours à nous intimider, à nous faire douter. Et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, l'épée de la parole, Jésus l'a magnifiquement brandie lorsqu'il a été tenté pendant 40 jours dans le désert. Et chaque fois, il a utilisé cette épée de l'esprit. Et Jésus, c'est vraiment le meilleur des exemples pour nous. C'est pourquoi il ne faut vraiment pas négliger de méditer la parole de Dieu chaque jour, de la lire, de la mémoriser, et de la méditer afin que lorsque l'adversaire va nous attaquer, on ait toujours la capacité de lui répondre avec la parole de Dieu. C'est vraiment dans tout cet équipement la seule arme offensive et défensive. Alors elle est très très importante, cette parole de Dieu. Et puis, faites toutes sortes de prières. Alors l'apôtre Paul savait de quoi il parlait parce qu'il était un combattant de la foi qui avait bien revêtu tout cet équipement. Dans notre texte du début, il précise « J'ai combattu le bon combat ». Alors est-ce que parfois on peut combattre un mauvais combat ? Dans le texte d'Éphésiens, Paul dit bien au début que le combat il est spirituel. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Malheureusement, parfois, dans le monde et dans l'Église même, malheureusement, on se trompe d'adversaire. Et c'est pourquoi il peut y avoir des rivalités et des divisions. C'est parce qu'on se trompe d'adversaire. L'adversaire, il est spirituel, c'est le diable. Et parfois, on s'attaque aux hommes au lieu de s'attaquer à l'ennemi. Alors, soyons vigilants. C'est pourquoi la fin du texte d'Éphésiens 6 que nous avons lu est si importante, qui dit « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. » Remarquez les termes utilisés par Paul, « vigilance et constance » dans cette version. Et oui, la prière est une arme efficace, très efficace. On peut remarquer que chaque fois qu'il y a eu un grand réveil dans le monde, ça a toujours débuté par un combat dans le jeûne et la prière, pratiquement. Et on peut voir hein, dans tout, que ce soit au Pays de Galles ou dans d'autres lieux, à chaque fois il y a des gens qui ont prié, qui ont combattu et pendant un certain temps, sans voir toujours des résultats tout de suite, mais ils ont persévéré dans la prière et Dieu répond. Alors oui, ça c'est une arme importante, la prière. Le texte parle de toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Oui, c'est important que ça soit sous la conduite de l'Esprit. Le Seigneur n'a jamais dit qu'il fallait réciter le chapelet, parce que, à mon avis, ça, c'est pas très efficace. C'est des vaines redites, des choses qu'on fait par devoir, plus qu'avec son cœur. Le Seigneur, il nous demande de prier selon l'Esprit, nous laisser guider par le Saint-Esprit dans nos prières. Et c'est vrai que la prière que Jésus nous a enseignée est un modèle, et elle est complète, mais il ne nous est pas demandé de répéter sans cesse les mêmes choses, mais d'être vraiment en communion avec notre Dieu, ouais, de lui parler comme on parle à son papa, à un bon père, à quelqu'un qui nous aime infiniment plus que n'importe qui d'autre. Alors, le texte nous parle de toutes sortes de prières. Ça peut être de l'intercession, mais aussi de la louange. Les murailles de Jéricho sont tombées lorsque la trompette a sonné, que les sacrificateurs ont sonné de la trompette et que le peuple a crié des cris de louange à Dieu. La louange est une arme efficace, oui, c'est David qui dit dans le psaume 18, verset 4, « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » La louange plaît à Dieu parce que elle démontre la foi de celui qui la prononce. Elle est un peu une anticipation de la victoire. Même si on ne voit pas les choses, on peut louer Dieu, parce qu'on sait qu'il va agir, même si tout nous montre le contraire. Et c'est un acte de foi de louer Dieu, même dans des circonstances parfois difficiles. Et c'est pour ça que ça plaît à Dieu, la louange, notre louange. Parce que celui qui combat à notre place en réalité, c'est Dieu lui-même. Dans ce même psaume 18, David le dit, « Il est intervenu d'en haut, il m'a pris, il m'a retiré des grandes eaux, il m'a délivré de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris lorsque j'étais dans la détresse, mais l'Éternel a été mon appui, il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. » Oui, notre adversaire aussi, il est plus fort que nous. Et David, il avait des adversaires plus puissants que lui, mais il a loué l'Éternel, il s'est appuyé sur l'Éternel et pas sur ses forces. Et Dieu l'a délivré de ses ennemis, il l'a mis au large, il dit « il m'a sauvé parce qu'il m'aime » et nous devons croire aussi qu'il nous aime aussi. Donc, on peut compter sur la grâce de Dieu. Ce n'est pas à cause de nos mérites. Il nous aime, tout simplement. C'est notre bon Père. Il nous aime malgré ce que nous sommes, malgré qui nous sommes. Grand 2, la vie est une course. Dans le texte de 2 Timothée 4:7, Paul précise « J'ai achevé la course ». La marche avec Dieu demande de la persévérance, car les obstacles ne manquent pas sur le chemin. Mais Paul n'a pas baissé les bras et il a persévéré malgré les grandes oppositions qu'il a rencontrées dans sa vie, tout au long de sa vie. Et il en fait un catalogue de tout ce qu'il a subi. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, à un moment donné, il dit un peu tout ce qu'il a, partout ce dont, sur les épreuves où il est passé. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins un. 3 fois j'ai été fouetté. Cette fois-là, c'était par les Romains et c'était bien pire encore parce que les fouets des Romains, c'était avec de la ferraille avec des, et il n'y avait pas de limite de 40 coups moins 1 là, c'était pas limité. Une fois lapidé, j'ai vécu 3 naufrages, j'ai passé un jour et une nuit dans la mer, souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans les régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. J'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches, la faim et la soif, de nombreux jeûnes, le froid et le manque d'habits, et sans parler du reste. Je porte mon fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. Alors on ne peut pas dire qu'on supporte toutes ces choses-là, heureusement, mais il y a certains serviteurs de Dieu qui ont subi beaucoup de tribulations, comme Paul. Alors si on n'est pas vraiment bien armé pour résister, on ne tient pas le coup, hein. C'est pas possible. Et Dieu nous a pas dit que on n'aurait pas de difficultés dans ce monde. Mais il nous a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Beaucoup de textes nous parlent de la persévérance. Jésus lui-même, dans un de ses derniers discours, a exhorté ses disciples ainsi, vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Donc si on est invité à persévérer, ça veut dire que pour avoir besoin de persévérer, il faut rencontrer des difficultés et des obstacles. Donc dans l'évangile de Luc, chapitre 21, 19, c'est le cas. C'est aussi Matthieu qui nous dit, dans un texte parallèle, vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance est nécessaire si on veut gagner la course. Et en toutes circonstances, nous dit le texte que nous avons lu tout à l'heure, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit, faites-le avec vigilance et constance. Alors, nous avons lu dans la version du Semeur, mais dans la version second, le mot « persévérance » est utilisé. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Dans l'Épître aux Hébreux, il y a aussi plusieurs textes qui parlent de persévérance. Hébreux 6, versets 11 et 12, « Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. » S'il ne faut pas se relâcher, ça veut dire qu'il faut vraiment être persévérant. La foi et la patience. Et puis, un peu plus loin, dans Hébreux 10, verset 36, oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Et puis, un peu plus loin encore, dans Hébreux 12, verset 1er, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins », c'est le texte qui suit toute la liste dans le chapitre 11 de tous les témoins de la foi, « rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Là, il parle encore d'une épreuve sportive. Hein. « Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Grand 3, gardez la foi. Oui, la fin de notre verset de 2 Timothée 4,7 nous dit « J'ai gardé la foi. » J'ai combattu le bon combat, oui, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. On peut bien commencer et mal terminer. C'est important de ne pas se refroidir, de rester vigilant dans notre vie spirituelle, dans notre communion avec Dieu, dans le fait de chaque jour revêtir toutes ces armes que le Seigneur nous donne. C'est Salomon dans le livre de l'Ecclésiaste qui dit « Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début ». Ce qui compte, c'est comment ça finit. Ça peut très bien commencer et très mal finir. Dans les lettres aux 7 églises de l'Apocalypse, le reproche qui est fait à l'église d'Éphèse, c'est « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour ». Ils avaient sans doute très bien commencé, mais au fil du temps, l'amour ne se manifestait plus normalement dans l'Église. Et l'amour, c'est le fruit de l'esprit, hein. C'est le gage de la foi véritable. Et puis dans d'autres lettres aux églises de l'Apocalypse, dans l'église de Smyrne par exemple, « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie ». Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Le vainqueur, encore faut-il vaincre. L'important, c'est la victoire finale. C'est de garder sa flamme allumée. Les vierges folles de la parabole n'avaient pas d'huile, n'avaient plus d'huile pour faire briller leurs lampes qui s'étaient éteintes. Elles ont été rejetées. À l'église de Thyatire, il est dit « Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. » Au vainqueur. Est-ce que nous sommes victorieux? Et pour toutes les autres églises dans ces sept églises de l'Apocalypse, dans la conclusion, chaque fois il est dit « Au vainqueur ». À celui qui est vainqueur, il recevra la récompense. Et le vainqueur, c'est celui qui pourra dire comme Paul à la fin de son parcours, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Alors que nous puissions, chers frères et sœurs, être de ces combattants de la foi qui pourront dire à la fin, oui, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Et pour cela, il est tellement important que nous soyons vigilants dans notre vie spirituelle, dans le combat de la prière aussi. C'est tellement important de combattre déjà soi-même individuellement, mais aussi communautairement, parce que c'est une arme puissante, la prière. Et puis, revêtons toute cette armure, veillons-y, gardons précieusement aussi l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, avec laquelle on pourra vraiment vaincre l'adversaire. Parce que c'est pas nous qui combattons, c'est le Seigneur, c'est son épée, c'est sa parole. Que Dieu nous aide. Oui, Seigneur notre Dieu, merci parce que tu as mis à notre disposition tous les éléments pour être victorieux, pour combattre ce bon combat de la foi, pour que notre course, nous puissions la terminer victorieusement, pour que nous puissions garder le dépôt, garder la foi, et avoir notre lampe allumée pour être, pour tous ceux que nous côtoyons, des reflets de ta présence. Oui, Seigneur, revêt-nous de ton Saint-Esprit, renouvelle en nous cette onction puissante pour que ton Église puisse remplir le rôle que tu lui confies de sel de la terre et de lumière du monde. Au nom de Jésus. Amen.